Bonjour et bienvenue dans votre numéro du mois de octobre des Chroniques Culture du département. C'est une émission qui vous est proposée en coproduction entre le département de l'Eure et Principe Actif. Bonjour Florence, bonjour Marie.
Bonjour JC.
Alors au sommaire de cette émission, nous ferons de la sorcellerie.
Oui, tout à fait. On accueillera Sandrine Hubert au téléphone, qui est la présidente de l'association Trouble Fête, qui organise du 31 octobre au 3 novembre un festival plutôt sur le thème d'Halloween, mais elle nous en parlera plus en détail.
Nous travaillerons sur la rentrée littéraire également.
Oui, avec Isabelle Ernoux, qui est bibliothécaire à la médiathèque départementale de l'Eure, qui va nous expliquer tout ce qui se passe là-bas et aussi la rentrée littéraire à la médiathèque.
Nous parlerons également du mois du doc.
Oui, Jean-Baptiste Théry qui est avec nous, qui va nous parler de tout ce qui se passe pour le mois du film documentaire.
Nous aurons un agenda non exhaustif de ce qui a attiré notre attention. Mais tout de suite, sans plus attendre, le saviez-vous ?
Oui, le saviez-vous que le département de l'Eure a beaucoup de films qui ont été tournés dans le département. Il y a des films très connus comme On a retrouvé la 7e compagnie, Minuit à Paris qui est de 2011 avec Woody Allen, L'Astronaute de 2023 qui a été tourné près de Vernon et bien sûr le film mythique Le Trou Normand avec Bourvil et Brigitte Bardot. C'était son premier film d'ailleurs qu'elle a tourné à l'âge de 17 ans. Man, I really messed up now.
Donc le morceau qu'on vient d'écouter, c'était Out Loud de l'artiste Cage the Elephant, sorti de l'album Neon Pile, pardon, qui est son sixième album. C'est un groupe de rock américain qui est délocalisé à Londres. Et donc c'est un album qui est disponible sur les ressources numériques de la MDE, dont on avait déjà parlé, qui s'appelle Muskimi, que vous pouvez retrouver sur le net. Voilà, et donc on accueille Sandrine Hubert, présidente de l'association Trouble Fête, qui va nous parler de son événement qui a lieu à la fin du mois, qui s'appelle le festival Samhain. Bonjour Madame Hubert.
Oui, bonjour.
On voulait revenir sur cet événement qui se tient du 31 octobre au 3 novembre à l'abbaye Notre-Dame de Bernay.
Tout à fait. Effectivement, ce sera donc la quatrième année d'existence pour cet événement en fait qui est en train de se développer d'année en année. Et donc là, cette année, nous avons une programmation artistique assez étoffée, on va dire. On accueille une quinzaine de compagnies et de spectacles, ainsi que 5 concerts qui seront répartis au fil des jours. Nous avons également au sein de l'abbaye un marché de la sorcière, donc on a à peu près 115 exposants, je dirais, triés sur le volet pour leur savoir-faire. Il n'y a pas de revente, ce sont uniquement des personnes qui fabriquent de leurs petites mains, voilà, des gens de qualité. Donc au niveau de ce marché de la sorcière, il y aura différents types d'articles, le côté vraiment artisanal avec le travail du cuir, la forge, la coutellerie, des bijoux, de la lithothérapie, tout ça. Et également une partie un peu plus ésotérique puisque c'est un marché de la sorcière, donc avec des cabinets de curiosité, des potions, des baguettes magiques, de l'encens, des fumigations et quelques sorcières de renommée également qui seront présentes.
D'accord, donc on imagine que c'est un événement un peu lié aussi à la période d'Halloween.
Alors, effectivement, il y a un lien un petit peu intrinsèque, puisque, nous, notre objectif, ce n'est pas de faire un Halloween américain. Pas du tout notre ligne. Voilà, les gens qui viendraient sur l'événement en pensant trouver un Halloween américain, c'est pas ce qu'ils vont trouver. Nous, notre objectif, c'est plutôt de faire connaître les origines d'Halloween. Mm-hmm. À savoir, Halloween tire ses racines, en fait, dans une très très ancienne fête celtique qui s'appelait Samhain, donc c'est le nom du dieu de la mort qui célébrait à l'époque. Les Celtes étaient un peuple qui vivait au rythme des saisons agricoles surtout, puisque voilà, ils vénéraient la terre, le ciel, en lien avec tout ce qu'ils appelaient les éléments sacrés, l'eau, la terre, le feu, enfin voilà. Et à cette époque-là, eux, la fin de l'année, ce n'était pas le 31 décembre, mais le 31 octobre. C'était le moment de bascule où en fait les jours longs basculaient vers des jours, des nuits longues en fait. Donc ouais. C'est le passage des jours clairs aux jours sombres. Et donc ils pensaient qu'à cette époque-là, le voile entre le monde des esprits et le monde des vivants était tellement fin que ceux-ci pouvaient franchir la barrière et venir les hanter. Donc pour eux, c'est vraiment une période un peu sacrée de rites et de célébrations. Donc les Celtes à l'époque se réunissaient autour de grands feux de joie au sein du village pour éloigner les mauvais esprits. Et en même temps, ils avaient des tentes à leurs défunts, un tas d'offrandes. Donc voilà, il y a toute une partie ancienne et culturelle derrière cette démarche, n'est pas du tout le côté Halloween américain, c'est vraiment ces traditions. Donc notre festival s'appuie sur ces traditions. On y trouvera notamment beaucoup la thématique du feu, et bien évidemment, donc on a 2 gros spectacles de feu, un le 31 octobre et un en clôture le 3 novembre, et notamment le soir du 31 octobre, voilà, on va retranscrire un peu ces rites anciens avec un grand feu de joie et puis un temps un peu plus rituel autour du feu sacré.
C'est aussi dans un cadre qui s'y prête particulièrement tout de même.
C'est ça. Alors, ce qui
Parce
fait
que ça y joue, hein, tout,
aussi,
ça y joue.
Exactement. Ce qui fait tout le charme de notre événement et ce qui fait aussi qu'on se démarque, je dirais, par rapport à d'autres festivals qui peuvent être implantées dans des hangars, des choses comme ça. Nous sommes dans un cadre absolument remarquable, dans une abbaye millénaire. Donc on a, pour nous, c'est hyper important de le valoriser. Donc on met en son et en lumière, on sonorise tout le monument historique, on le met en lumière. Et en plus, nos exposants qui viennent jouent le côté décor, donc plus nous créons également des décors. Donc c'est vrai que quand vous franchissez le festival, vous rentrez dans un univers un petit peu à part, en fait. Le public nous fait souvent ce retour, « Ah, c'est féerique, c'est un côté magique, on se serait cru voilà, un peu dans Harry Potter », parce qu'il y a tout un univers un peu mystique et qu'on n'a pas, enfin voilà, qui sort complètement du quotidien des gens, plus toute la partie spectacle, art de rue, enfin voilà, ça, c'est vrai que ça fait un peu briller les yeux des enfants, on va dire.
Sachant que l'abbaye de Notre-Dame de Bernay est quand même une très vieille abbaye.
C'est ça, une abbaye millénaire. Le site est vraiment, vraiment remarquable. Donc, quand vous rentrez notamment dans la partie abbatiale, ça donne une ampleur et une portée à l'événement qui est particulièrement magique, en fait. Et puis, effectivement, il y a le côté un peu qui correspond parfaitement à Bernay. Bernay, depuis toujours, a su conjuguer, mettre en avant un patrimoine ancien avec de la modernité. Je pense notamment au moulin qui a été transformé en médiathèque. Donc voilà, et puis tout un tas d'autres, l'ancienne caserne de pompiers qui a été rénovée avec une architecture beaucoup plus moderne. Il y a toujours à Bernay ce jeu entre l'ancien et le contemporain. Et là, sur notre festival, il y a aussi ce côté un petit peu décalé quelque part d'implanter un marché de la sorcière dans une abbaye. Ça donne une résonance un peu à l'histoire de ces fêtes païennes, quelque part.
C'est quasiment un pied de nez historique, quand même.
Oui, c'est ça. C'est un monument historique. Désacralisé, je précise. Hein, il ne s'agit pas de piétiner. Il n'y a de toute façon rien de religieux, nous, dans notre festival. Hein. C'est vraiment une retranscription historique d'anciennes fêtes païennes, d'anciennes traditions celtiques. Mais voilà, dans un lieu historique, dans un monument millénaire. Donc oui, c'est vrai que ça donne vraiment un cadre privilégié, c'est un écrin vraiment magnifique.
Et d'où vient l'idée de ce festival, en fait, à l'origine ?
À l'origine, c'était sorti du Covid, donc en 2020. Donc nous, au niveau de l'équipe organisatrice, il y a des comédiens, une école de théâtre notamment, un photographe. Hein. Voilà, on avait déjà un petit peu tous... une fibre artistique et c'est vrai que les années Covid, tout le monde est resté un petit peu cloîtré. Donc il y a eu une envie à l'automne d'organiser quelque chose quand on a pu remettre en place un peu d'activité. Et au début, l'idée était d'organiser une parade, un carnaval d'automne. C'était un peu l'idée. Et au fil du temps, avec la vocation, déjà à l'origine, l'envie c'était ça, c'était de faire connaître d'anciennes traditions, de démystifier le côté Halloween américain, parce que nous, on est convaincus que beaucoup de gens ne connaissent pas l'origine de nombreuses fêtes actuelles. Hein, on parle d'Halloween, mais tout un tas d'autres fêtes ont des origines bien plus anciennes. Donc c'était ça l'idée, c'était d'organiser au début, c'était plus une animation la première année, et puis au fil du temps on a voulu y ajouter du théâtre, puis des arts de rue, puis cette année des concerts. Voilà, on essaye d'étoffer au maximum la programmation artistique, et évidemment tout ce qui est théâtre et théâtre de rue a une place prédominante dans notre festival.
Et donc tout ça, là, ce théâtre de rue, toute cette programmation aura lieu dans la ville, il y aura un peu, parce que je vois qu'il y aura peut-être des projections à la MJC de Bernay, au cinéma.
Nous, le cœur de l'événement, c'est l'abbaye Notre-Dame. Donc on y est pendant 4 jours, du 31 au 3 novembre. Mais on a aussi à cœur parce que l'entrée est payante. On a vraiment mené une politique tarifaire la plus serrée possible pour que ça reste accessible, avec notamment des tarifs pour les familles nombreuses, etc. On prend la carte à tout Normandie et les tarifs d'entrée pour les enfants, c'est 1 euro. Donc on essaye vraiment de mener une politique tarifaire assez serrée. Par contre, en parallèle, pour les familles qui ne peuvent pas s'offrir une entrée sur la partie abbaye, nous menons également toute une une programmation gratuite dans différents sites de la ville. Donc on envahit les rues du centre-ville le 31 octobre, où là, toutes les entre 14h et 16h, toutes les 30 minutes, on enverra une compagnie dans les rues de la ville. On organise une chasse au trésor scénarisée, notamment avec nos comédiens. Donc on a en totale interaction avec les familles. Les enfants sont amenés à rencontrer les comédiens, à répondre à des énigmes ou à des épreuves pour gagner des ingrédients qu'ils doivent ramener ensuite à la sorcière pour la délivrer de sa malédiction. Donc voilà, il y a toute une partie un peu scénarisée de chasse au trésor et du coup de récompense de bonbons. Donc il y a un petit peu ce lien avec Halloween à ce moment-là, d'accord, dans les rues du centre-ville. Et ensuite, on a une grande parade avec un flash mob qui ramènera le public du centre-ville vers l'abbaye, qui ouvrira ses portes le 31 à 17h jusqu'à 22h. Donc bien. Ça, c'est la partie centre-ville. Et j'ajoute, effectivement, on a en parallèle à la Maison des Associations, l'espace Marie-Louise Aimé, toute une autre programmation gratuite qui a lieu les 4 jours en partenariat avec de nombreuses associations du territoire. Donc il y a énormément de choses qui seront proposées gratuitement pour le public. Il y aura des spectacles. On envoie notamment la compagnie Lutka pour un spectacle de marionnettes le 2 novembre. Il y a des ateliers réalité virtuelle, il y a un Fab Lab, il y a des ateliers maquillage, il y a des ateliers pour découvrir le monde de l'artisanat, donc on a différents artisans.
Et où est-ce que les gens vont pouvoir retrouver toute cette programmation
Effectivement, c'est une programmation assez développée et étendue, donc toutes les infos se trouvent sur notre site web samet.fr.
D'accord.
Dans la partie programme, on retrouve toute la partie concert, spectacle, animation et la programmation également du village des petits sorciers, où il y a là aussi beaucoup de choses gratuites à découvrir.
Très bien, bah écoutez, merci.
Merci à vous pour
vos explications. Et puis, on vous souhaite un bel événement. Alors, et rendez-vous le 31 octobre, donc, à l'abbaye de Bernay.
Merci.
Merci, bonne Madame Hubert. Bonne journée.
Au revoir.
Donc là, on était avec un groupe qu'on connaît bien, puisque c'est un groupe hébroïcien, Métro Verlaine, un groupe fondé en 2013 après un voyage à Londres. Cet extrait, c'était Amour d'été, issu de leur troisième album qui s'appelle Pop Sauvage. Alors, vous pouvez pas le trouver sur Musquimi, mais vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de musique. Voilà, Métro Verlaine.
Donc maintenant, nous sommes avec Isabelle Ernoux, bibliothécaire adulte à la médiathèque départementale de l'Eure.
Bonjour.
Donc d'abord, qu'est-ce que c'est que la médiathèque départementale de l'Eure ?
Alors, la médiathèque départementale de l'Eure est un service du département. Alors, nous ne sommes pas une médiathèque comme les autres, c'est-à-dire que nous avons un réseau de 105 bibliothèques que nous desservons en matière de documents, que ce soit des livres, des CD, des DVD, jeux vidéo, des ressources numériques, du matériel d'animation et d'exposition. D'autre part, nous avons un rôle d'expertise et de conseil au niveau des bibliothèques par rapport à des nouveaux projets de construction ou d'aménagement. Nous assurons également de la formation, puisque sur ce réseau, il y a de très nombreux bénévoles. Il y a des salariés et des bénévoles, mais ces personnes ont besoin de formation continue. Donc, que nous assurons ou que nous faisons, où nous faisons venir aussi également des intervenants extérieurs.
Donc là, vous préparez la rentrée littéraire, donc c'est comme dans les grandes librairies, enfin partout, et avec les grands concours, vous avez votre rentrée littéraire aussi, en fait, c'est ça ?
Oui, c'est-à-dire que la rentrée littéraire donc se passe en général de la mi-août jusqu'au mois d'octobre, avec de très nombreuses sorties. Pour cette année 2024, il y avait 549 titres qui sont sortis, donc aussi bien en littérature française qu'étrangère, mais aussi entre des auteurs très connus, mais également beaucoup de premiers romans. Donc nous assurons, puisque moi je travaille sur la section adulte, nous assurons l'acquisition d'un très grand nombre de romans que nous proposons auprès pour les bibliothèques. D'autre part, à ce titre, nous avons chaque année un petit événement où nous invitons notre libraire à venir faire une présentation d'un certain nombre de titres. Cela a eu lieu la semaine dernière, donc le 10 octobre, à la médiathèque de Pitres. Et là, il est venu nous présenter 23 titres. Il avait en tout une trentaine de titres. Alors lui s'attache plutôt à mettre en valeur soit des premiers romans, soit des éditeurs un peu connus, mais qui sont en train d'émerger.
Mais alors justement, comment ça se fait une sélection ? Vous avez tout lu, vous avez des canaux d'information, vous bossez avec des éditeurs. Alors on voit bien la ligne éditoriale de favoriser les premiers écrits, mais au-delà de tout ça, il en sort des centaines, notamment à la rentrée de septembre.
Tout à fait.
Comment ça se passe ? On retrouve un peu vos goûts dans les choix ? Comment
alors,
ça marche ?
Pas du tout. En tant qu'acquéreur, nous sommes là pour apporter vraiment une très grande diversité dans ce que nous choisissons. Il faut satisfaire un peu tous les publics. Par contre, le libraire, lui, quand il fait sa sélection, effectivement, il peut y avoir aussi, lui, son ressenti.
Et puis, quand on bosse avec une librairie, il y a la ligne éditoriale de la librairie aussi. On voit bien qu'en fonction de la librairie, il y a quand même des axes plus ou moins travaillés en général.
Alors, par contre, là, il s'agit d'une très grosse librairie. Donc là, eux ont un public de médiathèques vraiment très diversifié, aussi bien des bibliothèques, des médiathèques départementales, mais de grosses agglos, mais aussi de villes beaucoup plus modestes. Non, je ne crois pas qu'il y ait de ligne vraiment.
Il n'y a pas vraiment de ligne éditoriale.
Non. C'est de favoriser vraiment tous les sujets et tous les types d'auteurs.
Alors justement, quand on fait sa rentrée en médiathèque départementale, on se dit, on a des bibliothèques plutôt en village, des bibliothèques plutôt en ville, machin. Et du coup, on fait un profil d'acquisition dans ce sens-là. Comment ça marche ? Moi, je veux connaître tous les secrets, en fait.
Non, comment ça marche ? c'est tout. Alors, nous avons la chance quand même d'avoir des budgets importants, et ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les médiathèques du territoire n'ont pas forcément beaucoup de budget, très peu. Donc le but du jeu, c'est de pouvoir offrir un maximum de titres pour qu'elles puissent les emprunter ou les réserver si les livres ne sont plus disponibles, parce qu'elles ne peuvent pas, elles, acheter un maximum de titres.
Et cette sélection, elle est attendue. Comment les bibliothécaires réagissent quand ils la reçoivent?
Vous voulez parler de l'événement?
Enfin, les gens dans les bibliothèques, comment ils la reçoivent, cette sélection? Elle est attendue par eux, enfin,
oui,
par les professionnels?
Oui, en général, ils sont assez friands de rencontrer ce libraire lors de cet événement, parce qu'il peut y avoir un échange aussi. Certaines bibliothèques aussi ont lu ou aiment lire certains auteurs. Donc, il y a un échange qui se fait, c'est plutôt intéressant. Et ensuite, après, ils repartent avec des idées soit d'acquisition, soit de réservation au niveau de la médiathèque départementale, lorsqu'ils savent qu'ils ne pourront pas tout acheter, effectivement.
Ils ne veulent pas tous les mêmes, du coup? Parce que c'est la problématique, des réservations. Parce que quand on a bien vendu le livre, tout le monde le veut.
Voilà.
Comment ça fonctionne, ça? C'est au premier, au plus rapide, ça marche en dessous de table?
Non, pas du tout. Non, c'est-à-dire que nous avons des critères d'acquisition avec très souvent 3 exemplaires pour un même titre. Mais vous voyez bien que 3 exemplaires pour 105 médiathèques, c'est pas beaucoup. Donc, effectivement, c'est le premier qui réserve qui l'aura. Et après, de jouer le jeu, de les rendre à temps pour que d'autres puissent le lire derrière, les avoir et les lire ensuite.
Vous avez une idée un petit peu comme ça, là, juste pour se rendre compte de entre combien de mains passe un livre en général, un titre qui marche bien sur la médiathèque départementale, une idée de savoir entre combien de mains il va passer à la louche?
Je ne sais pas, ça peut être 15, 20 bibliothèques différentes.
Et donc, sur chaque bibliothèque, voilà, plusieurs lecteurs.
Ah oui, après, derrière...
J'imagine cette vie d'un livre qui passe de main en main.
Oui. Bah, il a une vie très... Voilà.
Très mouvementée.
Très mouvementée, on va dire, à partir du moment où il est proposé au prêt. Voilà. Il aura le succès mérité, comme on peut voir en librairie. Hein, on retrouve à peu près les mêmes succès. Mais beaucoup de gens pourront effectivement le lire sur un laps. Et parfois, ça dure plusieurs mois, plusieurs années dans le temps.
Et dans votre catalogue en tout, vous avez combien de livres, en fait, pour prêter
En tout, au niveau des livres, je ne voudrais pas dire de bêtises, je crois que c'est plus de 300 000.
D'accord.
Titres différents?
Non, pas non, titres
parce
différents.
Il y a
documents.
Plusieurs exemplaires. Documents.
Voilà, on pense plutôt en documents. Voilà.
Oui, donc c'est un sacré travail de navette, de prêt.
Ah, tout à fait, c'est une très grosse organisation, d'ailleurs... Voilà, nous sommes 24 personnes à travailler dans l'équipe. Donc, entre les acquéreurs du document, les gens qui prêtent, les navettes, les livraisons après des échanges, puisque les médiathèques viennent 2 fois par an faire un échange de documents.
C'est tous les 6 mois, c'est ça qui est la durée d'emprunt d'une médiathèque sur le fond?
Alors, plus longtemps. Hein. Tous les échanges se font à peu près tous les 6 mois pour une médiathèque, mais elle peut garder effectivement un document beaucoup plus longtemps.
C'est ça, ça dépend si ça fonctionne ou pas. Alors ça marche comment? C'est-à-dire qu'ils ont un volume maximum à échanger? C'est un peu, on vient comme on faisait avec les images Panini, échanger ce qu'on a et ce qu'on veut?
C'est un petit peu organisé, c'est-à-dire qu'on essaie de ne pas dépasser 500 livres, hein, parce que le jour de l'échange, il faut que la médiathèque...
Il faut porter les cartons.
Alors ça, c'est nous qui assurons, mais c'est vrai que pour faire le choix... On demande aux bibliothèques qui viennent, elles arrivent dans un espace où elles doivent choisir leurs 500 livres. Donc,
Ça peut prendre du temps quand je vois le temps que je mets pour choisir 4 livres à la médiathèque. Si on doit en choisir 500, ça peut être long.
Voilà, c'est un travail. Voilà.
Et là, dans cette sélection, vous avez eu un coup de cœur particulier ou pas?
Oui, dans cette sélection qu'il nous a présentée, moi j'ai trouvé bien « Alors c'est bien » de Clémentine Mélois. Alors c'est un roman qui a eu un prix là récemment, le prix Méduse. Et au niveau de l'histoire, c'est une jeune femme qui vient de perdre son père. Alors on pourrait penser que c'est quelque chose de très triste, mais en fait elle revient sur le parcours de son père. Et surtout, il s'agissait d'un artiste. Et donc, on voit leur conversation assez intime qu'ils avaient entre eux deux, leur entente. Et surtout, un père très farfelu, qui, par rapport au jour de sa sépulture, demande à sa fille à ce qu'elle peigne son cercueil en bleu. parce que ils trouvent ça plus fun et voilà,
c'est plus
ce qu'ils
joli.
Souhaitent avoir pour sortir un petit peu des sentiers battus et voilà, comme c'est un artiste. Et donc tout le livre est comme ça, assez loufoque. Parce que ce sont deux personnes aussi assez loufoques, et donc ça donne quelque chose de sympathique. Voilà.
Ça, c'était un premier cours. On rappelle le titre et l'auteur ?
Alors, c'est bien, de Clémentine Mélois.
D'accord, ça c'est votre coup de cœur à vous. Il y en a un autre tout à l'heure, parce que c'est bien, c'est souvent dans des grandes émissions sur France Culture ou autre, on prend note de ce qu'on va lire les prochains jours. On va essayer de faire pareil, on va suivre vos conseils. Un autre coup de cœur
C'est le livre de Gaël Faye, ah. qui s'appelle Jacaranda. Et là, c'est pareil, c'est un auteur qui n'en est pas à son premier titre, hein, mais lui, son parcours, donc dans ses livres, c'est surtout le Rwanda qui revient, donc, avec l'événement que l'on connaît, avec le génocide des Tutsis. Donc là, ça lui, c'est quelque chose qui lui tient à cœur et il sait très bien en parler, justement, dans ses différents romans.
Notamment son premier roman qui était Petit Pays,
voilà,
qui a eu un ultra sexy, poignant, ouais,
qui a eu un succès énorme.
Voilà. Un prix lycéen aussi, je
oui,
crois, pour celui-là.
Oui. Et Petit Pays, c'est toujours un titre qui fonctionne très bien en bibliothèque, notamment. Voilà. Donc, ça peut durer longtemps.
Exactement. Quand on parle de fonds départemental, là, on a parlé de romans adultes. Est-ce qu'il y a aussi un fonds jeune lecteur, première lecture aussi, éventuellement? Comment ça marche sur le fond? Est-ce qu'on est uniquement sur de la littérature adulte?
Non, heureusement, pas du tout. Le public jeune est très favorisé également, puisque nous avons deux collègues qui s'occupent du secteur jeunesse. Et là, on va trouver aussi bien des albums, des romans enfants qui sont première lecture, et des romans enfants, et ensuite des romans pour les adolescents qui correspondent en fait au collège. Et après, nous avons aussi les grands ados. Donc, tous les âges sont représentés. Et vous avez également un fonds BD intéressant pour la jeunesse. Voilà. Des livres avec des CD. Des albums également, même pour les tout-petits, pour les bébés, pour les moins de 3 ans. Donc voilà, toute la gamme est représentée pour le secteur jeunesse également.
Il y a une sélection aussi pour la jeunesse ?
Oui, il y a une sélection qui va paraître au mois de novembre ou décembre, je ne sais plus, qui s'appelle Le Petit Lu et qui est préparée chaque année, justement par un comité jeunesse. Ce sont des bibliothèques du territoire de l'Eure qui se réunissent à peu près une fois par mois, qui font des lectures et qui présentent leur coup de cœur. Et ensuite, un certain nombre de titres est retenu pour justement faire cette publication qui paraît en fin d'année.
Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment une vie de réseau, en fait, de
oui.
médiathèque, et notamment avec la médiathèque départementale. C'est nécessaire au vu de tout ce qui sort, en fait. C'est aussi échanger sur les sorties ou les titres qui seraient passés sous les radars, par exemple. Quelle importance ça a, justement, de bosser en réseau?
Bosser en réseau, c'est-à-dire que nous, on peut leur apporter notre expertise et surtout leur offrir une pluralité dans les titres. Nous avons la chance d'avoir des budgets intéressants, donc ce qui fait qu'on peut satisfaire beaucoup de monde et aller justement sur des littératures un peu plus confidentielles qu'eux ne pourraient pas. On ne va pas s'attarder à des grands auteurs et des grands éditeurs.
Ça, on les a déjà tous.
Voilà, il faut laisser la place aussi à plein d'autres auteurs.
Ils vous font remonter des choses, des fois, justement, ces médiathèques, parce que ce sont des médiathécaires qui sont tous aussi des professionnels de la littérature. Ils vous font remonter des thématiques, des envies, ils vous attirent l'attention sur des auteurs, sur des parutions, des choses comme ça.
Alors, ils peuvent faire des suggestions au niveau des titres qu'ils souhaiteraient avoir, parce qu'ils ne pourront pas les acheter. Sinon, effectivement, ils font énormément d'animations dans leur médiathèque. Donc là, c'est l'occasion de nous faire ressortir des titres sur des thématiques ou sur des auteurs. Donc, ils font leur demande par rapport à tout ça.
Oui, parce que 300 000 documents, c'est quand même un sacré fond, quoi.
C'est un sacré fond, mais c'est nécessaire pour.
Une bonne chose. Non, mais c'est une très bonne chose. Un fond aussi important.
C'est nécessaire, voilà, pour répondre à, en fait, à leurs besoins.
Isabelle, vous vous promenez des fois parmi les rayons de dans les rayons de tout ce stock.
Oui.
Moi, j'imagine ce que ça peut donner déjà quand on rentre des fois dans une grande bibliothèque, une grande médiathèque. Il y a quelque chose de l'ordre de la présence presque quand on se bat dans les rangées de bouquins. J'imagine avec le fond que vous avez. Alors peut-être pour vous ça ne fait plus rien, mais j'imagine ça quand on se balade dans un rayonnage aussi important.
Alors au tout début, ça paraît très impressionnant. Mais ensuite, on apprend à connaître ce fond, à le faire évoluer, à le remettre à jour, et puis à faire des recherches par rapport à des demandes qui sont faites par les bibliothèques. Donc, on s'y promène effectivement assez souvent.
Vous n'allez pas me dire que vous savez où tout est placé où ?
C'est-à-dire que quand on a un système de classification, et c'est normal, pour s'y retrouver, on s'y retrouve.
Ah oui, c'est vrai que c'est le même système pour tout le monde.
Voilà.
En plus.
Voilà.
Et il me semble que vous avez des jeux de société aussi que vous prêtez aux bibliothèques.
Oui, tout à fait. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais les jeux de société sont également à notre actif et ils sont proposés donc aux médiathèques qui le souhaitent pour qu'elles puissent soit prêter au public, soit faire des petites animations, elles, dans leur médiathèque.
Je me souviens plus, on l'a peut-être dit, c'est combien le réseau? 150 médiathèques, c'est ça?
Ah non, 105.
105, ah oui, pardon. Bon, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà un beau réseau. Est-ce que toutes les bibliothèques médiathèques sont en lien avec vous ou il reste encore des structures plus isolées?
Alors,
vous avez dans les 105, 95% des médiathèques de l'heure?
Alors, il en reste encore sur le territoire qui ne font pas partie de notre réseau. Elles peuvent parfois justement souhaiter venir dans le réseau et pour ça, il y a un système de convention à signer pour pouvoir rentrer dans notre réseau.
Mais ça couvre déjà une bonne partie, oui, 105,
oui,
ça doit couvrir une bonne partie du territoire. Hein.
Oui, tout à fait, sur le territoire, tout est quadrillé et notamment au niveau des bibliothécaires, on s'appelle aussi des référents, c'est-à-dire que chacun d'entre nous a un secteur géographique. Moi, par exemple, j'ai 13 bibliothèques et il s'agit de Évreux, Porte de Normandie. Voilà, donc c'est un territoire assez grand et il y a 13 bibliothèques sur mon secteur.
Et c'est vrai que quand on est, client, je ne sais pas comment on pense, quand on a
usager.
Sa carte, usager, pardon, de sa carte, on a la carte de bibliothèque, on peut bénéficier du réseau donc médiathèque numérique de l'heure. On
oui.
a des films, on a de la musique avec MusicMe,
oui.
dont on parlait tout à l'heure. Et ça, c'est vraiment incroyable d'avoir toute cette source d'informations accessible grâce à la médiathèque départementale.
Voilà, puisque ça, c'est un service totalement gratuit, donc c'est ça qui est très important à connaître.
C'est tous les services numériques auxquels on peut accéder.
Oui, nous appelons ça la médiathèque numérique, mais effectivement, il y a du cinéma, de l'auto-formation, de la musique. Donc ça, c'est totalement gratuit. Il suffit d'être inscrit dans d'une médiathèque, du réseau, pour pouvoir en bénéficier.
Pour conclure, votre meilleure lecture, vous, Isabelle, votre meilleure rencontre, ou peut-être la pire, mais celle en tout cas qui aura marqué, vous voyez, celle qui, quand on a fermé la dernière page, on ne reste plus comme on l'était à la première page. Vous, est-ce qu'il y a un livre en particulier, un auteur peut-être, qui vous aurait, en tout cas, sur lequel, quand vous avez fermé la dernière page, vous n'étiez plus comme à la première.
Il y en a plein. Il y en a plusieurs. Donc, non, je ne saurais pas vous dire comme ça. C'est un peu compliqué. Là, c'est un peu compliqué.
Oui, c'était une question dure. On termine avec une question dure. On a fait toutes les faciles. Vous avez très bien répondu. Je me suis dit, peut-être que je peux en placer une dure. Hein. Qui sait? Non, tant pis alors. J'aurais essayé. Merci beaucoup à vous, Isabelle Ernoux, de la MDE, médiathèque départementale de l'Eure, d'avoir échangé avec nous sur comment ça fonctionne. Et puis, vos coups de cœur aussi. On n'aura pas celui qui aura le plus touché, le plus retourné, mais c'est pas bien grave. Hein. Quand on est lecteur ou lectrice, en fait, le but du jeu, c'est de se faire retourner à chaque fois quand même.
Oui.
C'est ça le but.
Et prendre du plaisir à la lecture.
Très bien. Merci beaucoup à vous, Isabelle. On retourne en musique et c'est Marie qui nous dira ce qu'on a écouté après.
mind very much if I added some spice, some sugar and cream, and all things nice. There's a twist in your tail that doesn't sit right, a spectrum that don'ts, the black and white. Well, I've bitten my lip, I've held my tongue, but I'm still here, you lucky one.
Donc le morceau qu'on vient d'écouter, c'était You Lucky One, extrait de l'album That Golden Time, qui est le 7e album de Villagers. Donc voilà, un album envoûtant et émouvant. Je rappelle que c'est Fabienne Roux, hein, de la MDE, justement, qui nous fournit ces titres, qui les sélectionne et nous les décrit, et voilà, qui nous permet de les passer à nos émissions.
Voilà, on fait pas nos malins tout seul dans notre coin avec des programmations et à chaque fois quelque chose à dire sur le titre. C'est le boulot de la MDE, justement.
Tout à fait.
Donc maintenant, nous sommes avec Jean-Baptiste Théry, qui est bibliothécaire spécialisé sur le cinéma et aussi chargé du mois du film documentaire. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour.
Alors, c'est quoi exactement le mois du film documentaire ?
Alors, le mois du film documentaire, c'est un événement qui est organisé au niveau national par Images en Bibliothèque depuis les années 90 et coordonné par le département de l'Eure depuis 2012.
D'accord.
Et donc, c'est principalement la projection de films documentaires en médiathèque pendant tout le mois de novembre.
Seulement en médiathèque ? Les films sont projetés seulement en médiathèque ?
Pas seulement, il y en a aussi dans des salles de cinéma ou dans des associations.
Il y a eu un petit
problème de micro.
Et il y a une thématique à chaque fois ?
Non, pas de thématique spécifique. En tout cas, il y a une thématique au niveau national, par Images en Bibliothèque, mais pas au niveau du département. Cette année, les médiathèques peuvent s'en inspirer pour leur projection. Et cette année, Images en Bibliothèque a choisi Petite Planète, donc sur l'environnement.
Et il y a eu beaucoup de films qui ont été sur ce sujet-là ?
Non, pas du tout. C'est vraiment des choix assez personnels. C'est vraiment la sensibilité de chaque organisateur. Il y en a qui vont vouloir des films qui vont être plus rattachés au territoire, d'autres plus ouverts sur le monde, d'autres sur des sujets de société. Il y en a qui vont être penchés sur l'environnement, d'autres sur quelque chose de plus, sur le féminisme. Si on regarde la programmation, c'est vraiment très éclectique.
Et comment ça se passe, cette programmation, justement ? Comment elle est mise en place ?
C'est-à-dire...
Comment se fait le choix des films, en fait ?
Pour les médiathèques ou...
Oui, pour les médiathèques.
Alors là, c'est à chacun. Comme je disais, c'est leur sensibilité. Après, nous, à la médiathèque départementale, on leur propose une sélection de films... mais c'est vraiment à titre indicatif, donc c'est fait par ce qu'on appelle le comité du doc. On est quelques bibliothécaires d'âge très varié, parce que ça va quand même de 25 à 75 ans. Donc on est peu, mais les débats sont quand même très riches et pas houleux, mais énergiques. Sur les choix et donc on propose ça c'est une sélection qui est vraiment dirigée vers les bibliothécaires pour les aider dans leur choix de films et aussi nous en plus on peut leur donner déjà les coordonnées des distributeurs parfois même de producteurs ou de réalisateurs ça c'est pas du clé en main mais ça facilite déjà leur travail. Parce que l'organisation du mois du doc, c'est quand même c'est vraiment une grosse charge.
Le documentaire, cette forme de film documentaire qui sont des longs métrages également, c'est une forme qu'on a l'habitude de retrouver sur des chaînes spécialisées type Arte ou autre, mais c'est quelque chose dont on a moins l'habitude quand même, le film documentaire par rapport à tout le catalogue des films de fiction de manière générale, et là c'est au sens large que j'entends. C'est aussi l'occasion de promouvoir un petit peu le temps long pour s'informer sur un sujet.
S'informer sur un sujet, oui et non. Ça va être un regard subjectif sur un sujet qui va parler à beaucoup de gens. C'est vraiment, c'est des sujets qui parlent à tout le monde, qu'on voit dans les médias. Comme je disais, l'environnement, le féminisme, la politique. Mais ça va être un regard personnel du réalisateur sur un sujet, ça va être...
C'est aussi prendre le temps. Enfin, moi, il y a cette notion de temps, en fait, sur le documentaire. Quand on se documente, c'est le cas de le dire, le format 45 minutes, une heure et demie ou deux heures pour certains, c'est un format qui demande le temps de s'immerger dans le sujet. En fait, c'est ça que je trouve intéressant aussi dans cette notion de documentaire, c'est le temps pour s'immerger.
Oui, vraiment, En plus, d'autant plus quand on parle de, on va dire, documentaire de création. Donc là, on n'est pas dans du reportage ou dans du documentaire télé. Il n'y a pas de voix off qui nous prend la main, qui nous dit, écoute, je vais t'expliquer ce que tu vois. et ce que un tel pense, comment ça se passe. Non, ça va être vraiment un auteur qui va dire, bah voilà, moi je vois cette situation, voilà comment je la ressens. Et je trouve que, enfin, finalement, cette subjectivité, paradoxalement, elle est assez objective. C'est vraiment, on nous dit pas quoi penser, c'est vraiment l'auteur qui dit, moi, voilà, il y a ce sujet qui parle à tout le monde, que tout le monde peut s'approprier, mais moi, je vois ça, je vois, voilà ce que j'ai rencontré, voilà comment je le vois. Et après, c'est vraiment le spectateur qui amène vraiment son propre... qui, à partir de là, va poser son propre regard.
J'ai eu l'occasion, sur des films documentaires que j'ai vus, de trouver qu'il y avait ce lien toujours qui ressemblait un peu au témoignage. Alors, des fois, c'est le témoignage direct d'un moment de vie, mais le regard est également du réalisateur. Mais je trouve qu'il y a vraiment cette plus-value de témoignage, je trouve, souvent dans le film documentaire.
Ça va être témoignage. Oui,
ça veut dire que des fois, on va être sur une situation presque de proximité avec un, deux, trois, quatre protagonistes. Mais finalement, ça parle d'un sujet beaucoup plus large, en fait, qui pourrait quasiment être universel. Je trouve qu'il y a cette notion presque de témoignage, de zoom à travers le film documentaire. Alors, peut-être pas tous, hein, mais en tout cas, je trouve qu'on retrouve cet exercice régulièrement.
Oui, clairement. Enfin, ouais, vraiment. Enfin, on est vraiment auprès des gens. Enfin, le réalisateur. Enfin, voilà, ça peut être un sujet du réalisateur, c'est-à-dire quelque part il parle de lui, mais ça peut être aussi des gens qu'il a rencontrés et il va être vraiment focus sur un petit groupe de gens. Là, dernièrement, j'ai vu un documentaire, donc c'est une réalisatrice arménienne qui fait témoigner des femmes donc de la génération de sa mère dans une sorte de petite cabane où on fait le pain traditionnel. Et on est sur vraiment, elles racontent un peu leur passé, leur vie. Enfin, c'est vraiment témoignage d'une époque.
Donc vous avez vu pas mal de documentaires. Est-ce qu'il y en a qui vous ont bouleversé dans le sens, enfin, dans ce que vous avez vu, pas forcément l'émotion, mais quelque chose que vous ne connaissiez pas, que vous avez vu, enfin, un changement là-dessus.
Oui. Enfin, parce que là, je suis en train de présélectionner encore les films pour la. Sélection départementale du comité du doc. Donc j'en ai vu. Enfin là, j'ai vraiment en tête des films que j'ai vus récemment qui se passent souvent à l'étranger, qui sont souvent des histoires de mémoire. Et là, bah, par exemple, celui dont je viens de parler de cette réalisatrice arménienne. Il y en avait aussi. J'ai vu. Enfin voilà, ce film sur une famille turque. Et le réalisateur qui filme sa famille, ses frères et sœurs, et ils sont, on va dire, sous le joug d'un père patriarcal, traditionnaliste, enfin voilà, il y a des choses vraiment très, très bouleversantes, et c'est vrai qu'on se dit, oh, le documentaire de création, déjà, le documentaire, c'est pas très attirant comparé à la fiction, en plus de création, donc on parle de film auteuriste, mais c'est vrai que des fois, on a des, enfin, il y a des choses qui nous bouleverse. Et enfin, moi, les derniers que j'ai vus dans la sélection qu'on est en train de faire, j'ai vraiment voyagé et découvert des choses vraiment magnifiques et des personnages extraordinaires.
Il y a un intérêt aussi du film documentaire projeté en médiathèque ou en projection collective, c'est que ça génère de la discussion après, forcément. Et ça, c'est tout l'intérêt d'aller voir une projection.
Oui, alors, c'est pour ça que souvent, on conseille aux bibliothécaires, en tout cas à ceux qui organisent, de faire venir un intervenant. Ça peut être un membre de l'équipe du film, le réalisateur, le producteur, mais même quelqu'un qui a un rapport plus ou moins proche au sujet, parce que à la fin, le film suscite forcément des réactions, quel que soit le sujet. Ça peut être négatif, positif, mais les gens, on le voit, ont envie de parler.
Est-ce qu'il y a des temps réservés aux scolaires pour ces diffusions?
Certaines médiathèques, elles ont une projection publique et elles ont des projections scolaires. Elles sont moins nombreuses, mais certaines tiennent à ce que, elles choisissent leurs films aussi en pensant au public scolaire.
Et au sujet, j'imagine que dont ça traite et qu'ils revoient ensemble après avec leurs élèves.
J'en sais pas assez sur les projections scolaires, mais je sais que certaines médiathèques, veulent, faire découvrir le documentaire aux scolaires.
Donc du coup, les films pourront être visibles dans les médiathèques, mais aussi dans les cinémas, c'est ça ?
Voilà, dans certains cinémas, dont ceux de la chaîne Noé Cinéma, donc ça va être Pont-Audemer, Bernay, Les Andelys, et j'en oublie une, Vernon. Et il y a aussi d'autres institutions, comme le musée du Vert de Conches, mais il y a aussi des associations qui proposent des projections, et ça peut être dans des médiathèques ou dans des salles de cinéma.
Et dans ce cas-là, c'est eux qui font qui choisissent leurs films, ou vous les accompagnez aussi ?
Pour les associations ou
pour les cinémas ?
Les cinémas, non, ils choisissent eux-mêmes leurs films, et c'est la même chose pour les associations. Souvent, c'est par exemple, il y a l'association de Bernay, alors Bernay Burkina Faso, qui ont tous des documentaires qui ont un trait avec cette partie du monde. Enfin voilà, c'est vraiment c'est eux qui choisissent leur film.
On retrouve toutes ces informations où ? Parce qu'il y a toute une liste, une programmation. Je vois que vous avez un petit livret. Alors on ne va pas le détailler, ce livret, parce que ce serait trop indigeste.
Non, mais
où est-ce qu'on peut trouver toutes ces infos ?
Alors dans un petit livret qui est la programmation départementale, vous avez toutes les informations sur toutes les séances. Donc vous avez tous les détails, et c'est classé par ville. À la fin, vous avez le calendrier par date. Et vous avez tout.
Et alors, le petit livret, on le trouve où ?
Partout.
Je vais remonter le fil, hein, vous allez voir. Hein.
Partout. Donc, on le retrouve dans toutes les médiathèques. Il est en ce moment en train d'être distribué.
Très bien. Bah, merci beaucoup, Jean-Baptiste Théry. Puis, on vous souhaite un joyeux mois du doc, alors.
Merci beaucoup.
Et nous, ça nous emmène jusqu'à l'agenda qu'on va, non exhaustif, bien entendu, qu'on va égrener. Alors, qui c'est qui s'y colle ?
Je rappelle qu'on en avait parlé le mois dernier, mais je rappelle qu'il y a toujours l'exposition qui a lieu à l'abbatiale de Bernay, Art Urbain, qui se termine ce dimanche, je crois, avec une visite exceptionnelle en présence du commissaire d'exposition Nicolas Laugereau-Lasserre.
Ah, puis ça vaut le coup.
Et ça vaut le coup.
Parce qu'on l'a fait,
voilà,
cette visite.
C'est vrai. Et donc, à partir de dimanche, elle ne sera plus visible, et c'est bien dommage de ne pas la voir.
À Harcourt, le château va fermer, mais il y a quand même les automnales le week-end du 19 et 20 octobre, si je m'abuse.
Oui, c'est ça. C'est ça, mais il y a toute une programme. Alors, il y a beaucoup de programmation autour d'Halloween. Hein. Vous pouvez retrouver tout ça sur le site Eureka, le site d'attractivité de l'heure, avec tous les agendas et les endroits où vous pourrez vous renseigner. C'est vrai que là, il y a beaucoup d'expositions, beaucoup de, par exemple, les Nuits des fantômes du château de Beauménil. Vous pouvez quand même, je vous invite vraiment à aller sur le site Eureka pour avoir plus d'informations, parce que on n'a pas forcément les dates précises. Voilà, vous aurez tout ça sur le site Eureka, je rappelle, E-U-R-E-K, qui est le site d'attractivité de l'heure.
Et ben voilà, nous avons fait le tour des quelques dates que nous avions sous la main. Bien entendu, il y en a plein d'autres, et on vous invite à vous renseigner également.
Dans le festival Samhain dont on a parlé, voilà.
Et ben voilà,
31 octobre au 3 novembre.
Du côté de Bernay.
Tout à fait.
Exactement. Nous, on se donne rendez-vous le mois prochain, si je ne m'abuse.
Le 22 novembre.
Le 22 novembre, et ben ce sera ça. Nous retrouverons le 22 novembre.